Et dans les épisodes précédents, la première moitié 2016, des attentats, la primaire américaine, d'autres attentats, les migrants, la corruption, des élections serrées, des robots du terrorisme, nuit debout, tout le monde en grève et des terroristes. Nous sommes le lundi 13 juin 2016, la Terre tourne péniblement et pour la dernière fois, cette fois c'est la bonne. Bon. Alors les amis, bienvenue dans le dernier numéro de Cette fois c'est la bonne, le podcast en vue des révisions des concours de journalisme, le podcast d'actualité qui vous dit quels sont les petits points à retenir si vous aimez réviser l'actualité ou si vous voulez devenir journaliste et passer ces concours foudingues. Je vous aide bien avec votre serviteur Benjamin, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi durant ces 13 numéros comme une saison HBO classique. Une saison Netflix classique plutôt, voilà. Écoutez, il n'y a plus grand chose à dire. Ce dernier numéro sera pas plus rapide que les autres, mais disons qu'il concernera en tout cas une actualité internationale beaucoup plus faible, beaucoup moins étendue, puisque là, il est carrément symbolique. Hein. Évidemment, les oraux sont là et pour ceux qui sont concernés, et j'espère que vous êtes concernés, il faut tout de même avoir toutes ces problématiques en tête. On vous demandera plus des trucs liés à tout ce qui concerne depuis janvier, toute l'actualité depuis janvier. Mais il est quand même de bonne aloi de, pour n'importe quel contexte, notamment celui-là, et quand on passe un entretien d'embauche en journalisme, d'avoir en tête ce qu'il se passe. C'est quand même un tout petit peu le métier qu'on vous demande. Donc on va partir sans préambule, sans introduction, sans préliminaire davantage que tout ceci, et directement pour la dernière fois, car j'ai pas grand chose d'autre à dire, je vais garder ça pour la conclusion. Pour la dernière fois, on va passer à l'international. Bien, donc on commence aux États-Unis avec un truc bien pourri qui encore une fois fait te demande vraiment pourquoi tout, pourquoi la vie, pourquoi vraiment se lever le matin. Mais commençons avec un truc bien pourri sans précédent. Et donc j'ouvre ce dernier numéro avec de l'homophobie. Ouais, un homme est venu ouvrir le feu dans une boîte gay à Orlando, le Pulse, en Floride. Alors actuellement, les autorités dénombrent une cinquantaine de morts avec autant de blessés. Alors évidemment, les appels au don du sang après ce massacre dans un club gay ont eu du mal à recevoir des échos puisque les homos n'ont toujours pas le droit de donner leur sang. Évidemment, si je vous en parle après vous avoir fait un petit préambule sur le filtre à voir sur les attentats, tout simplement parce que ça n'a pas de précédent. C'est de facto la plus grave tuerie de masse par balle de l'histoire des États-Unis. Concrètement, en termes de chiffres, c'est difficile de pas le voir sous cet angle. Alors évidemment, première réaction surréaliste de Mirsedik, le père du suspect Omar Mirsedik Matin, sur la chaîne NBC News. Il s'excuse de l'incident et estime que la tuerie n'a rien à voir avec la religion. Monsieur Sedik a rappelé qu'il y a quelques mois, son fils avait été choqué de voir deux hommes s'embrasser à Miami et que cela aurait pu motiver son geste. Alors, ça sera confirmé ou ça n'aura aucune valeur quand vous m'écouterez. La police déclare des sympathies pour le terrorisme islamiste, ce qui ne dit pas à l'instant T le motif de cet attentat. En toute logique, il est probable que Daesh ait revendiqué la chose à l'heure où j'enregistre. Quand vous écoutez, c'est à vous de vérifier. Après, c'est à prendre avec des pincettes. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas lire dans le futur. C'est d'autant plus horrible qu'à Orlando, la ville a été le théâtre du meurtre d'une ancienne candidate de The Voice en dédicace, Christina Grimm, par balle, alors qu'elle signait des dédicaces. Je l'ai déjà dit, mais il n'empêche que ça va sûrement relancer le débat du gun control aux États-Unis, qu'Obama va sûrement faire un 50e discours sur le sujet et qu'il sera stoppé par un congrès républicain. Voilà pour ce premier volet international qui fout un cafard démentiel. Alors un chiffre important, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, on aurait dépassé le chiffre de 10 000 migrants morts en mer Méditerranée depuis 2014. En Italie, le premier tour des élections municipales de Rome ont eu une invitée surprise au résultat. Revoilà le fameux mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, mais sans le surnommer il y a 3 secondes. En effet, on parle maintenant de Virginia Raggi. À Rio, les Jeux Olympiques vont accueillir une équipe de réfugiés. 10 athlètes du Sud-Soudan, de Syrie, de République démocratique du Congo et d'Éthiopie. Ils ont tous fui leur pays et feront de la natation et de l'athlétisme, par exemple. Je ne sais pas quel sera leur drapeau, mais il y a eu des précédents qui ont toujours défilé sous la bannière du drapeau olympique. Allons en Allemagne. Le 2 juin, le Bundestag, le Parlement allemand, a reconnu le génocide arménien par les Turcs de 1915. Alors je crois que l'un de mes tout premiers cours d'allemand en 6e me disait, à Paris, dire, comment dirige Eisotter Tampion, à quel point Turquie et Allemagne sont mêlées dans leur histoire ou dans leur culture. Pour certains Turcs, c'est une provocation, particulièrement pour le président Erdogan qui subtweet les députés allemands d'origine turque. Enfin, plus sérieusement, il a taxé les 11 élus d'origine turque qui ont voté en faveur du texte de terrorisme et affirmé que du sang corrompu coulait dans leurs veines. Sem Özdemir, coprésident des Verts au Bundestag, a par ailleurs fait l'objet de menaces de mort. En Italie, un journal offre Mein Kampf à ses lecteurs. C'est le quotidien de droite Il Giornale qui a offert un exemplaire par journal dans l'édition livrée ce samedi. Un livre qui, je cite, « faut connaître pour rejeter », d'après le journal italien. Alors je suis le premier à conspuer la critique sans support, mais c'est une drôle de manière de placer le curseur pour cet exemple tout de même. Le journal dont propriétaire est le frère de Silvio Berlusconi, le saviez-vous? Mais ce n'est pas fini, puisque le journal entend proposer cet autre livre consacré au pamphlet antisémite, une espèce de saga d'été, quoi. On retourne aux États-Unis et ça y est, Hillary Clinton va être candidate. C'est quasiment acté, en tout cas, ça allait dans les chiffres. Ce qui est d'autant plus étrange que Bernie Sanders ne veut pas s'avouer vaincu. Et là, je vais boule de cristaller un peu en disant que ce sera la première présidente. J'ai confiance, bah sinon mon cochon l'humanité aura perdu. Et petit rappel, puisque là vraiment, tant qu'à faire, on va faire que du fun fact. Bernie Sanders, rappelons-le, est un sénateur du Vermont. À Singapour, qu'est-ce qu'on fait pour éviter une fuite de données, notamment des données bancaires? Eh bien, le gouvernement a exécuté une idée somme toute efficace mais radicale. On tire sur le grand cordon d'internet sur tous les fonctionnaires, soit 100 000 personnes pour un an. Ils devront utiliser leur smartphone, ceci en réaction à la fuite des données de clients Stanford Chartered fin 2013. En bref, les forces loyales au gouvernement d'union nationale reconnues par l'ONU sont entrées dans le centre de Sirte en Libye. Il s'agit de la principale ville détenue par le groupe terroriste État islamique dans le pays. Un groupe kurde radical proche du parti des travailleurs du Kurdistan, le fameux PKK, a revendiqué l'attentat à la voiture piégée contre la police turque qui a fait 11 morts mardi à Istanbul. Un Belge de 31 ans a été arrêté jeudi à Schaerbeek à la suite d'une perquisition. Comme l'a annoncé le parquet belge, il est soupçonné d'avoir participé aux attentats qui ont fait 32 morts le 22 mars à Bruxelles. Et pour finir, évidemment, puisque c'est le dernier enjeu de cette moitié d'année, dernier coup d'œil sur les sondages du Brexit, eh bien, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que c'est mal barré pour les pro-Europe. c'était très très court, mais c'est la vocation du podcast, ne suivre que les débuts de storyline entre guillemets, c'est donc de plus en plus court en ce qui concerne l'international. Mais tout va bien puisque maintenant la France. Alors, est-ce vraiment une actu? Je ne sais pas, mais après 20 ans de grève et de perturbations déjà bien amorcées par la pluie et les crues qui en ont fait plus que mettre les grèves en pause qu'autre chose, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé que l'État allait accorder des soutiens financiers à la SNCF pour la rénovation du réseau ferroviaire pour compenser la concession faite aux syndicats. Ce n'a pas empêché la grève d'être reconduite et de plus en plus de gens et de corps de métier font grève. Les éboueurs font grève, par exemple, ou les touristes. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu en Conseil des ministres ce mercredi pour 782 communes. N'hésitez pas à mater combien il y en a en France d'ailleurs. C'est un statut qui accélère les indemnisations des sinistrés. Rétropédalage juridique sur une affaire que j'ai déjà évoquée ici. Les magistrats de la cour d'appel de Lyon ont déclaré la non-prescription des faits reprochés au prêtre Bernard Prena à Lyon. Ce sont 4 plaintes de scouts pour pédophilie qui vont reprendre leur cheminement. On rouvre le dossier. Robert Boulin était dans l'eau mais pas dans la position d'un noyé, a déclaré le médecin réanimateur appelé le jour de la découverte du corps de l'ancien ministre du Travail en 1979. France Inter et 20 minutes révèlent plusieurs témoignages recueillis par une juge d'instruction depuis la réouverture du dossier en septembre 2015 et contredisant à la thèse du suicide. Bon, j'ai beaucoup parlé d'applications, cette fois c'est la bonne. Le 8 juin, le gouvernement a lancé SAIP, une application pour alerter la population en cas de crise majeure. SAIP pour système d'alerte et d'information des populations qui avait été promis au lendemain des attaques parisiennes par Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Évidemment, tout ça a aussi un lien avec l'imminence de l'euro et les fameuses fanzones, à ne pas confondre avec les fanzous, s'il vous plaît, qui sont donc triplement contrôlées pour assurer la sécurité des supporters. D'ailleurs, j'ai tendance à penser que fanzous, dans un futur dystopique, rejoindra le Dico dans 1 ou 2 ans. Jérôme Kerviel peut fêter sa victoire contre son ancien employeur, qui est évidemment la Société Générale. Le Conseil des Prud'hommes a statué que l'ex-trader avait été viré sans réelle cause sérieuse, verdict qui a précédé l'appel de la banque. Donc voilà, c'est réglé pour lui pour le civil, mais encore une fois, je rappelle que en ce qui concerne le pénal, la justice l'a reconnu coupable d'une perte de 4,9 milliards d'euros. La Société Générale se doit maintenant de verser 450 000 euros à Jérôme Kerviel. Toujours dans le juridique, Sarkozy est 2012, tandis que l'ex-président retarde le plus possible sa candidature aux primaires. Les juges d'instruction ont terminé leurs investigations dans l'enquête Big Malion sur un système de fausses factures et des soupçons d'explosion de plafond des dépenses lors de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012, comme l'a annoncé mardi 7 juin une source judiciaire. Donc la clôture de l'enquête ouvre un délai durant lequel les parties peuvent faire de nouvelles demandes d'actes avant les réquisitions du parquet et la décision finale des juges d'instruction sur un éventuel procès. Nicolas Sarkozy mis en examen dans cette affaire pour financement illégal de campagne électorale, car c'est toujours bon de retenir les chefs d'inculpation, notamment l'affaire Bettencourt a été demandée au CFJ 2013 ou 2014, peut-être les deux, mais il n'est pas mis en cause pour avoir eu connaissance d'un système de fausses factures. Évidemment, on va parler de Big Malion ou des cadres de l'ancienne UMP, des responsables de la campagne présidentielle et des dirigeants, blablabla, Event NC and Company. Au total, 13 autres personnes sont mises en examen dans cette enquête ouverte aussi pour faux, abus de confiance et escroquerie. Uber Pop, donc Uber, a été condamné à verser 800 000 euros d'amende, dont la moitié avec sursis, et a annoncé bien sûr faire appel. Alors, autant citer d'autres entreprises, chauffeur privé ou Hitch, pour des entreprises françaises, par exemple. Petite annonce en éducation, Najat Vallaud-Belkacem a annoncé un renforcement des contrôles sur les écoles privées hors contrat et l'instruction à domicile. Alors les contrôles n'ont rien à voir avec les notes, les annotations en rouge et les carnets de correspondance. Bien sûr, je vous parle des écoles privées sous contrat. Elles s'engagent à respecter le programme bien canonique de l'éducation nationale et ceci sans financement public comme les établissements publics qui financent les enseignants. Donc cette petite niche sans contrat concerne 0,4% des élèves, soit tout de même plus de 56 000 têtes de pipe. C'est le début du ramadan, environ un musulman français sur 4 ne le pratique pas, il se terminera le 5 juillet. Et comme l'a tweeté Alain Juppé, un très bon ramadan à tous mes frères et sœurs en islam, que la paix d'Allah soit sur vous. J'allais dire soit avec vous, c'est pas la bonne religion. Tweet Alain Juppé donc, enfin non. Un lycéen a fait une capture d'écran en bidouillant de lignes HTML, le bousin devient viral, la fachosphère saute sur le premier truc venu dans son sens sans jamais vérifier, et Juppé est fort mari, puisqu'il a menacé de porter plainte contre le gosse, menace de plainte qu'il a laissé tomber, surtout quand c'est pour un piratage inexistant. Et de son côté, l'incroyable Justin Trudeau a tweeté, lui, mes meilleurs vœux de paix et de bonheur en ce mois sacré du hashtag Ramadan. Ramadan Moubarak. Des joies d'attentats encore, un Français de 25 ans a été arrêté le 21 mai à la frontière ukraino-polonaise, ou polono-ukrainienne j'imagine, et les services secrets ukraino-ukrainiens disent que l'intéressé projetait de commettre 15 attentats à lui tout seul sur des synagogues et mosquées pendant l'Euro. Sans développer des jours, il faut noter tout ce qui est Denis Robert, ses posts sur Facebook et l'affaire des Golden Tweetos qu'il opte à coups de longue forme sur les réseaux sociaux. Il décortique selon lui les profils des manias qui s'adonnent au harcèlement sur ces mêmes réseaux sociaux et est intervenu sur Arrêt sur Image. Sauf que Denis Robert le reconnaît en affirmant qu'un certain Alexandre Perrin se cachait derrière le compte Twitter Gordon Gecko, alias Sky the Limit. Le journaliste et réalisateur a outé la mauvaise personne. Bref, le bordel. Eh bien, pour la dernière fois encore, le reste. Alors en culture, c'est actuellement la première édition française à Longchamp du festival Download, qui a vu par exemple Iron Maiden, La Vierge de Jeufer, mais on peut aussi noter Wheel of Green, festoche depuis 2011, donc 6ème édition. Alors comme le nom l'indique assez clairement, la préoccupation fondamentale du festival, c'est l'environnement, ce qui n'empêche pas les festivaliers de tous les festivals de musique du monde de fumer les algues. Une édition extrêmement boueuse, puisque super pluvieuse, qui a accueilli 47 000 visiteurs sur les deux jours. On y a pu voir par exemple PNL ou PG Harvey. Bon, je signale assez nonchalamment la sortie de The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, juste parce que ça a fait un peu de bruit à Cannes, mais je sais pas pourquoi je vous ferai pas toute une revue de presse de cinéma chaque semaine. J'aimerais bien, mais c'est celui-là qui me semble le plus pertinent. Le cryptographe Jacob Applebaum est accusé d'attouchement, d'harcèlement et de menaces. Shari Steele, la directrice du projet Tor, a précisé que ces derniers jours, un certain nombre de personnes ont accusé Jacob Applebaum publiquement de mauvais traitements à caractère sexuel. Ces allégations n'étaient pas totalement nouvelles, mais ces dernières accusations sont plus graves et plus concrètes que tout ce que nous avions entendu jusqu'alors. J'espère que vous savez ce qu'est le projet Tor, d'ailleurs. L'une des meilleures façons de s'anonymiser sur Internet. C'est fondamentalement lié au Deep Web, ou Dark Web, si vous êtes France 2. En sport, viteuf, après 3 finales manquées, le Serbe a décroché le seul titre du grand chelem qui manquait à son palmarès, le Roland-Garros. Le Serbe, à votre avis ? Il n'y en a pas beaucoup. Maria Sharapova est suspendue par la Fédération Internationale de Tennis après un contrôle au Meldonium en janvier dernier. Alors sur Internet, un espèce de truc pullule. Qu'est-ce que c'est ? La triple parenthèse ? Eh bien, c'est l'écho et ça pullule sur les médias ricains d'extrême droite et souvent des soutiens de Donald Trump. C'est utilisé pour désigner les personnes de confession juive, je comprends à peine la rhétorique derrière, et c'est intraçable par les moteurs de recherche qui ne font pas les signes de ponctuation. Actuellement aussi commence le 3 à Los Angeles, IQ Cube ou Electronic Entertainment Expo, qui est la grande messe du jeu vidéo qui se tient chaque année, où les éditeurs présentent à grands coups de keynotes les jeux emblématiques qui feront l'année économique des studios et le bonheur des actionnaires. Alors bien sûr, cette année, ce qui caractérise le show, c'est les fuites. Quasiment tout le contenu, c'est avant les conférences. Et tant qu'à faire, on parle de médias et de jeux vidéo. En presse, Kenar PC veut se lancer dans une version web et a lancé un Kickstarter qui a atteint les 100% en un jour. L'objectif a même été largement doublé. Faut dire qu'ils ont une fanbase très fidèle et très solide. Gameblog a annoncé un jour plus tard faire du print. Il s'avérait que c'était une publication sponsorisée par la Fnac. Mais dit encore, c'est pas comme si Canal en avait besoin, mais la purge du clair continue. Maïtena Nabil Rabin et Ali Badou sont écartés de la chaîne. On annonce leur départ en matinée et Yann Barthès suggère bien plus dans un Le Petit Journal, comme quoi ils auraient été débarqués. Ardisson aussi, bref, l'objectif est de zigouiller Leclerc purement et simplement. C'est même le principal concerné, Bolloré, qui dit « Les plages gratuites seront réduites à une, voire deux heures par jour. » Alors aujourd'hui, actuellement, c'est davantage le triple. Donc Vincent, si tu veux que ton business model mystérieux marche, il va falloir que tu mates un petit peu les tarifs d'un abonnement. L'autorité de la concurrence a rejeté le projet d'alliance entre Canal+ et sa concurrente beIN Sports, qui prévoyait un accord de distribution exclusive et aurait permis à Canal+ de renforcer son offre sportive. Vincent Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi et de Canal+, avait présenté cet accord comme décisif pour le redressement de la chaîne cryptée. Alain Weil, le directeur général de SFR Media, a annoncé le départ du PDG de l'Express, Marc Laufer. Petite décapitation au KLM. Il pense par ailleurs que le titre doit basculer en totalité sur Internet. Pas de bêtises, s'il te plaît, je dois y stager en fin d'été. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour cette ultime question bonus. La toute dernière rubrique qui vous dit de manière sporadique les petits trucs susceptibles de tomber qui ne rentrent pas dans les cases. Donc, allons-y gaiement. Jacob Applebaum, encore une fois, qui travaille pour Tor. Mais Tor, qu'est-ce que c'est? C'est The Onion Router. Il est toujours bon de développer des acronymes. On a appris cette semaine que le mot de passe de Mark Zuckerberg est dadada. Comment on sait ça? Eh bien, des hackers l'ont trouvé sur une BDD de LinkedIn de 2012. Bref, Mark Zuckerberg est un homme comme les autres, il ne respecte pas les consignes élémentaires, comme par exemple éviter le live password à utiliser partout, il ne change pas son mot de passe et il ne le dépasse pas sur plus de 6 caractères, bravo. Mohamed Ali est mort, autant rappeler que c'était alias Cassius Clay, alias The Greatest, plus grand. Ça peut vous intéresser, le Figaro Web a sorti récemment une école de journalisme et leur classement, avec une méthodologie qui, je l'espère, est plus claire que celle de Street Press en 2013. Le roi a commencé et mon conseil, c'est de retenir le nouveau commentateur de foot pour TF1 qui est un transfuge de Canal, c'est Grégoire Margoton. Bloctel, c'est un service gouvernemental anti-démarchage qui vous demande plein de données perso pour vous inscrire. Bon, sans doute pour éviter d'inscrire quelqu'un d'autre par erreur ou par farce parce que oh là là, il serait fort mari. Ah, et mon petit truc, si par malheur pour vous, j'étais un examinateur d'oral, je vous demanderais de compter les dates en nuit debout. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, Ce mercredi, on a fêté le 100 mars. Et mon tout dernier conseil pour faire la boucle avec le pilote, qui doit être donc des attentats de novembre, c'est de rappeler la devise de la capitale, fluctuat nec mergitur. Et donc évidemment, avec les crues de la Seine, la pluie et le zouave qu'on n'a pas arrêté de prendre comme étalon pour mesurer la hauteur du fleuve, ça prend une toute autre dimension. Donc voilà pour cette dernière rubrique de ce dernier podcast. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter si ça s'est bien passé pour vous. Encore une fois, je suis très heureux de savoir que vous avez vos oraux, que vous avez vos écrits. Si vous avez vos oraux, c'est bon. Là, vous avez plus qu'à choisir vos écoles et là, c'est du caviar. Je m'en vais rédiger mon mémoire et à mon tour finir mon master, mon deuxième master d'ailleurs. Et peut-être qu'on se retrouvera dans le métier dans 2 ans ou plus. Allez savoir, c'est à vous de jouer, c'est à moi de jouer aussi. Donc, tout simplement, sans m'éterniser des heures, j'aimerais vous remercier infiniment de m'avoir suivi à chaque podcast. Je sais que vous avez été très fidèles. Il y a très concrètement beaucoup plus de gens qui ont écouté ce podcast que de gens qui passaient les concours. Hein. Je le sais, c'est pas difficile à calculer. Donc, merci à tous ceux qui sont intéressés, même s'ils n'étaient pas principalement concernés par la chose. Je vous remercie très très fort de m'avoir fait confiance et de m'avoir prêté vos sous, votre argent. Encore une fois, il m'en reste et ça me permettra de produire des contenus sur une période indéfinie. Tout ça pour vous dire que je peux encore me le permettre. Et je vais pouvoir d'ailleurs m'y remettre un petit peu plus, maintenant que bon, j'ai plus les podcasts à faire entre guillemets. Donc voilà, vous pouvez toujours suivre le compte Twitter sur @c'est la bonne. N'hésitez pas à aller sur le site, cette fois c'est la bonne.fr. Vous pouvez aussi suivre mes autres projets sur @benjaminbnt, où vous verrez toutes mes élucubrations d'une diversité incroyable. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, même si fatalement sa pertinence va un petit peu en pâtir. Donc je ne dis rien sur l'avenir du podcast à court et à moyen et à long terme, ça ne sert à rien de prévoir ça. Écoutez, je vous remercie une dernière fois, merci à vous, bonne chance pour les oraux et je vous embrasse très fort. Ciao. Tu veux des pubs? Allez, tiens, prends une pub.
Oh, mais dis donc, ce paysage culturel est bien trop fourni.
Oh, une deuxième.
Alors, vous comme ça, on est perdu.
Une troisième radio Kawa.
Salut, tout le monde. Des amis qui vous donnent rendez-vous dans un
petit coup de pouce. Rendez-vous sur patreon.com/radio Kawa et de votre message de vos émissions en public, de notre dossier matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa. Connaissez et que vous posez vos questions à mes amis. Radio Kawa ne touche pas. Aucun revenu publicitaire.
Vous attend,
alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.
Serge Thirier a aussi pu évoquer des sujets comme le traitement du jeu vidéo dans la presse généraliste. Le Player Club s'intéresse aux jeux vidéo sous tous les angles sur Radio Kawa.
Donnez-moi du boulot. Donnez-moi un CDI ou un CDI du travail. du travail, un CDI. Enfin, un CDD, quoi. Vous voyez, bye.